Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Marie Folcon.
Bonjour.
Joanne Lazur.
Bonjour.
Et Gilles Morin.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « L'homme libéré est capable de connaître l'extase partout où il se trouve ». C'est la mode aujourd'hui, un peu du yoga. Les gens ont besoin de techniques pour se sentir spirituel. Ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils ont besoin de mériter aussi. Donc, faire des techniques pour monter au niveau de la conscience la plus élevée. Mais en fait, moi, je crois que c'est pas nécessaire une technique pour atteindre l'extase ou pour être heureux. Simplement, il faut juste être dans le ici-maintenant puis se le permettre. On va réfléchir là-dessus aujourd'hui. Est-ce qu'un d'entre vous veut commencer la réflexion?
Oui, moi je veux bien. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à la libération. Là, on parle évidemment pas de la libération physique, mais plutôt psychologique, mentale. Pour moi, c'est vraiment aller au-delà du mental. Donc, en fait, se libérer des conditionnements et de toute image qu'on a de soi ou que les autres projettent également. Et ça amène vraiment à l'extase, justement, parce qu'on est dans le ici, maintenant, parce que, justement, tu vas zapper le mental à travers une pratique dans le ici, maintenant, comme tu viens de dire, là. Et effectivement, si à chaque seconde vous êtes dans l'instant, c'est tout à fait possible d'avoir l'extase à tout moment et n'importe où. C'est pas du tout par rapport à une situation extérieure que vous allez avoir l'extase. C'est justement un état d'être, donc un état intérieur. Donc, peu importe ce qu'il y aura autour de vous, vous pourrez être dans un état d'extase continuelle, peu importe la situation extérieure. Donc, c'est ça que je pense pour l'instant de ça.
Mais l'extase, en fait, moi, je fais beaucoup une comparaison avec ce que c'est un état d'abondance. Un état d'abondance matérielle, en fait, c'est plus un état d'abondance dans la matière. Donc, c'est possible qu'en tant qu'humain, on ait besoin de techniques, méditation, relaxation même. Bon, yoga, des fois même peinture, marche, exercice, peu importe, pour nous ramener dans l'instant présent. Quand on a vécu une fois, c'est quoi cet état de bien-être-là? C'est ce qui fait qu'on va avoir probablement le besoin ou le goût de poursuivre dans une technique quelle qu'elle soit. Au final, on n'en aura pas besoin. Mais on a aussi besoin, quelquefois, à mon avis, de certaines techniques, simplement pour se rappeler que c'est possible également. Puis éventuellement, il n'y en a plus de techniques. On est simplement dans un état de bien-être, d'abondance. Mm-hmm. Et ça revient rejoindre, à mon avis, l'état d'une gratitude également pour le corps que l'on a.
Oui, ça peut être un
pour la vie qu'on a également.
Mais le problème, à mon avis, c'est que les gens deviennent dépendants des techniques. Et je veux dire, ça prend une technique, par exemple, pour faire des solos de guitare. Je vais apprendre les notes, les gammes, et puis moi, dès que possible, je les oublie pour tomber dans la vraie musique. Mais je trouve que dans notre société, les gens sont un peu dépendants.
Ben, c'est ça, il n'y a plus de spontanéité du tout. C'est vraiment,
et de la créativité, en réalité.
C'est ça.
Mais effectivement, comme tu dis, Joanne, c'est sûr qu'il va y avoir certains chemins, comme certaines techniques, qui vont t'amener à être. Parce que justement, tout ce qui est physique, ça te ramène au corps dans le senti. Donc, dès que c'est le senti, obligatoirement, tu es dans l'instant. Si tu sens, simplement, et non pas penser à sentir, c'est différent. Oui. Réellement sentir. Donc, c'est sûr qu'à travers le yoga ou des techniques comme ça, ça te ramène au corps, donc dans le senti. Donc, tu es dans l'instant.
Si tu... D'accord.
Voilà.
Mm-hmm. Moi, j'aimerais ça relater une expérience que j'ai vécue au travail, justement, lorsqu'on m'a appelé. Et puis, j'ai fait un lien avec au niveau de la liberté et l'extase. J'étais à l'emploi, et puis une cliente rentre au travail, et puis en pleurs, et puis elle était vraiment dévastée parce que le gouvernement avait saisi ses actifs, avait saisi son compte. Et puis, la personne ne savait plus quoi faire. Et puis là, je voyais que les gens qui voulaient la servir ne savaient pas trop comment la rejoindre, lui parler. Donc, moi, j'ai pris la place, je me suis assis devant la personne et j'ai parlé avec elle pour savoir un peu c'était quoi un peu sa situation. Et là, je comprenais que c'était pas juste la saisie du gouvernement, du compte, ou c'est une personne qui faisait beaucoup, très peu très peu de revenus. Son compte était saisi. Et puis, à ce moment-là, elle était dévastée. Là, elle ne savait plus son loyer. Elle avait passé dans son compte et ces choses du genre. On a fait une vérification. J'ai réglé la situation avec le gouvernement. Ça s'est réglé. La deuxième partie, c'est que là, j'ai voulu savoir pourquoi elle était si dévastée que ça. C'est quand même pas si catastrophique. Mais là, j'apprenais, à mesure que je lui parlais, j'apprenais qu'elle devait travailler un emploi à temps partiel, en bas du salaire minimum. Et là, je me posais la question pourquoi qu'elle travaille et pourquoi qu'elle doit travailler. Et je lui ai posé la question. La première réaction, la première réponse qu'elle m'a dit, c'est parce qu'elle mangeait beaucoup, elle aimait ça manger. Je comprends pas je comprends pas cette réponse-là. Et tout ça pour en venir que à ce moment-là, je demande à la personne, c'est quoi vos revenus? Là, je vois bien que son bilan ne balance pas. Il y a le juge des revenus, il n'y a pas de dépenses. Avez-vous des dettes? Avez-vous des cartes de crédit? Il vous dit, oui, j'ai une carte de crédit, malheureusement. Puis j'ai une carte, j'ai pour 16 000 $ de carte de crédit. Puis le problème, c'est que c'est ma fille qui m'a endetté parce que j'ai voulu aider ma fille. Et là, elle était mal prise, elle ne savait plus quoi faire, elle était encore en pleurs, parce que là, les émotions repartaient. Puis là, j'ai dit à madame, donc, vous, en ce moment, vous travaillez seulement juste pour payer vos cartes? Elle a dit, oui, c'est ça. Et puis là, elle était dévastée. Et puis je lui dis, madame, regardez ce qu'on va faire. Vous allez aller voir un syndic de faillite, vous allez déclarer faillite. Et maintenant, je vous libère des problèmes du gouvernement, des problèmes des cartes de crédit qui vous poursuivent, d'avoir un emploi même que vous ne voulez pas avoir. Et aujourd'hui, je vous libère de tous vos tracas. Puis là, la madame, elle circule, puis elle me dit, c'est la première fois que quelqu'un me parle comme ça. Et là, la personne, c'est ce que vous ne savez pas, c'est que la personne, elle a 72 ans. 72 ans est pris par les dettes que sa famille lui a mis dessus, le gouvernement qui lui court après, les cartes de crédit qui courent après pour avoir se faire payer. Tout ça ensemble, c'est exactement la liberté que je lui ai donnée. J'ai l'impression que cette femme-là, je lui ai dit, allez travailler, demain, allez voir le syndic, déclarer faillite, et vous n'aurez plus de soucis. À 72 ans, vous méritez de finir vos jours dans la paix.
Mais le crédit, justement, je trouve que c'est vraiment une attrape nigaud là, du siècle d'aujourd'hui, c'est-à-dire acheter maintenant, payer dans le futur. T'sais. Donc, les gens ne pensent plus vraiment au moment présent. Moi, je n'ai pas de carte de crédit. En tout cas, j'en ai une, mais je l'utilise juste une fois par mois pour payer mon téléphone, juste pour dire que j'ai un bon crédit. Mais à part ça, moi, je vois tous ces gens qui payent toujours avec leur carte de crédit.
Mais c'est ça, c'est le lien que je veux faire avec le thème qu'on a ici. C'est l'homme libéré capable de connaître l'extase. Et quand la personne est partie, après m'avoir parlé, il y avait une flamme dans ses yeux. Oui. À 72 ans, que pendant peut-être 15 ans, elle n'a jamais eu parce qu'elle était prise avec un système qui est en train de l'égorger. Donc, l'extase qu'elle a eue, moi, je l'ai vue apparaître dans ses yeux. Est-ce qu'elle va agir demain? Oui. Est-ce qu'elle va faire ce que je lui ai dit? Je ne vais pas la suivre. Sauf que je lui ai donné un moment d'éveil et qu'elle a juste à se servir. Parce que là, maintenant, elle n'a plus besoin de travailler pour payer sa carte de crédit. Et ces histoires qu'elle me disait parce qu'elle voulait manger puis qu'elle voulait protéger sa fille, dans la durée de la conversation, je lui ai demandé, c'est qui la personne la plus importante? Mm-hmm. Elle m'a dit, c'est elle. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais l'éveiller. Parce qu'elle a compris que la personne la plus importante dans sa vie, c'était elle.
Oui, effectivement.
Puis à 72 ans, là, c'est pas une madame de 50 ans, de 60 ans. Là. Je veux dire, là, à ce moment-là, j'ai pu avancer mon discours, puis j'ai été capable d'y parler. Et l'extase, c'est pas moi qui l'ai eu, l'extase, mais c'est elle qui l'a eu, l'extase. Donc, quand t'es rendu, tu donnes l'extase aux gens, par l'éveil que tu leur donnes, moi, je suis content de cette journée-là.
Mais j'aimerais bien définir l'extase, là, parce que c'est un mot que les gens utilisent aujourd'hui, surtout dans les raves,
ecstasy.
Ouais. Mais pour moi, l'extase, c'est quelque chose du deuxième niveau de la pensée. On peut être heureux, mais pour moi, l'extase, c'est une purement une jouissance totale.
Oui.
Je veux dire, on peut comparer. Quand j'ai eu des extases, j'ai pu comprendre qu'on pouvait jouer plus qu'avec juste son corps physique. Mm-hmm. Qu'on pouvait jouer avec toutes les parties de son corps. Et ça, c'est incroyable. Et pour atteindre cet état-là, c'est malheureux qu'on ne se donne pas la permission à chaque jour parce qu'on pourrait. On résoudrait beaucoup de problèmes si on était toujours dans cet état de clarté.
Ben, de liberté, c'est justement. Quand t'es pas libre, t'es libre, t'es pris avec des tabous, t'es pris avec la morale, t'es pris avec ton statut social, t'es pris avec de l'argent, puis t'es pris avec le rôle que tu joues en tant que personne dans la société, ben, toute cette pensée-là qui construit ta personne, c'est pas ton être, c'est ta personne, c'est le rôle que tu joues, mais sors de ton, de ta personne et réagis dans la vie, fais, va au maximum de ton être et non de ta personne. La personne, c'est ton rôle dans la vie. Mais dans la vie, il y a l'être qui va t'amener l'extase. Mais on parle de l'extase étrique et non l'extase de la personne. Parce que quand on parle des gens qui font de l'ecstasy, ils font des ecstasies encore en fonction de leur personne et non en fonction de l'être, parce qu'ils ne reconnaissent pas leur être encore. Non?
Mais remarque qu'avec l'ecstasy, tu peux quand même atteindre l'extase.
Oui, justement, c'est la parce plus que
je suis quelques fois, parce que ça ouvre le cœur. Ouais. Et puis moi, ça c'est m'a fait vraiment lever.
Tout ce qui est drogue, de toute manière, ça va vraiment accéder à un certain niveau de conscience. Donc, c'est pour ça que...
Ce qui n'est pas vraiment idéal, par contre.
Hein?
Ce qui n'est pas nécessairement idéal.
Bah, c'est clair, là.
On va en parler après la pause. On va en parler après la pause. On va aller avec une chanson de Caroline Loeb qui s'appelle « C'est l'extase ». Puis on revient avec ce thème. L'homme libéré est capable de connaître l'extase partout où il se trouve.
Exquise spirale, divinement infernale. Quand dans la salle la lumière s'éteint, le noir se fait et que sur ton œil clair une lueur tombe, t'éclaire et que tu me souris lentement. Tellement lentement, quand dans la terre toute pleine d'hiver, encore transie par son attente, une petite brindille toute pâle, toute nue déplie sa feuille tout simplement. C'est l'extase. Oui, c'est l'extase. Je me dilue dans le plaisir, j'en oublie même de souffrir, c'est l'extase. Aller à tes baisers, à tes caresses, que j'oublie un temps cette tristesse qui revient. Sans cesse, quand dans la rue une couleur ou une odeur familière me prend par la peau et me ramène ailleurs où j'ai déjà été il y a longtemps. C'est l'extase. Oui, c'est l'extase.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « L'homme libéré est capable de connaître l'extase partout où il se trouve ». On pourrait résumer cette phrase finalement en quelque chose de très simple, c'est « do it » ou « fais-le ». C'est-à-dire, arrête d'attendre. La délivrance instantanée, ça devrait être pour tous. Mais depuis au moins plus que 2000 ans, 2500 ans, on nous a dit qu'on devait mériter le paradis, ou si on tombe dans le yoga ou dans les... pensée orientale, il faut se purifier, comme si on n'était pas déjà pur. Moi, je suis pur. Je n'ai pas besoin de technique pour me sentir meilleur ou digne d'être heureux ou d'être en extase. Les fois que c'est arrivé, ces temps-ci, j'ai un grand plaisir à faire des sites Internet. Par exemple, j'ai fait le site Internet de Joanne dernièrement. J'étais dans un état d'extase incroyable. Parce
que tu es extasié, Joanne, en voyant.
Je jouis littéralement sur mon divan parce que pour moi, la création, c'est un acte de plaisir incroyable. Je sais que je suis venu sur Terre pour ça. Mm-hmm. Et il suffit d'apprécier les belles choses. Moi, j'aime le café, mais j'en prends pas beaucoup. Mais quand j'en prends, oui. Je le déguste, mon café. Oui. Ou bien, il y a des gens qui fument des cigarettes. Ils fument, puis ils les prennent plus, les cigarettes. Ils font juste les consommer. Mm. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas fumé, mais quand j'en fumais, j'achetais un paquet ou deux par année et je les dégustais. Parce que j'ai un certain temps, j'ai fait pousser mon propre tabac pour comprendre la plante. Pour la respecter, parce qu'on sait que dans certaines tribus, le tabac est utilisé dans les cérémonies psychédéliques, par exemple. Mm-hmm. Les chamans vont utiliser le tabac pour communiquer avec les esprits.
Et beaucoup comme offrande aussi, en quelque sorte.
C'est ça.
Ben, en fait, si on parle d'extase, il y a beaucoup ce côté à la fois spirituel, puisque ça touche l'âme. À mon avis, une extase, ça se vit par l'intermédiaire du corps, mais au fond, c'est l'âme qui est heureuse. C'est celle qui justement vit cette liberté-là. Bon, on peut appeler ça l'âme, l'enfant intérieur, peu importe, une partie de nous qui est heureuse de vivre sur le plan terrestre. Donc, ce que Gilles disait tantôt, où c'est un peu et beaucoup la majorité de beaucoup de personnes, en fait, ou la réalité de bien des personnes, où on va essayer de se donner des petits moments de bonheur, mais en réalité, si on avait la chance de quitter le plan terrestre ou de vivre ailleurs, ou d'en avoir assez de cette vie-là. Puis au fond, la vie spirituelle passe par le corps physique. Et c'est l'âme qui, quand on est dans la création, quand on crée quelque chose et qu'on a du plaisir, la joie et qu'on le fait avec amour, même qu'au niveau de la sérotonine, plutôt, donc certaines substances au niveau du cerveau, tout se fait naturellement. Et à mon avis, tout le monde peut vivre ça. On peut avoir besoin de technique, on peut avoir besoin aussi d'un arrêt dans sa vie pour se regarder vivre. Parce que souvent, on ne fait que vivre, mais on ne se voit pas vivre. Mmh. Et on est en réaction par rapport aux événements extérieurs. Puis au fond, cette extase-là se part de l'intérieur.
Oui, moi, je suis d'accord avec toi aussi, Joanne. Mais comme tu disais aussi pour la passion, effectivement, c'est ça. C'est quand tu es dans la passion, ça revient à être dans l'instant. Parce que tu aimes tellement ça que tu es vraiment dedans. Donc, c'est sûr que tu peux t'extasier à chaque instant. Dès que tu crées quelque chose, tu écris, tu peins ou tu es en extasié
dans le moment
présent. On revient toujours aux mêmes choses, mais c'est ça.
Il y a une légèreté qui permet une connexion réelle.
Oui, c'est ça, parce que tu es libéré du mental. Tu es juste dedans. Tu n'es pas en train de penser au futur ou au passé. Là, tu es dedans. Et là, tu prends une énergie, puis là, tu continues. Puis là, tu es heureux dans la vie. La sérotonine qui embarque et tout ça. C'est sûr, là, ça te libère. C'est une grosse libération. C'est clair, là. Pour moi, c'est tout à fait évident.
Puis moi aussi, je vois l'extase. Je vais donner une petite anecdote. C'est surtout quand on parle sur Wikipédia qui parle de l'extase sexuelle. Puis c'est directement lié à la liberté. C'est quand la première fois que j'ai pris mon cours de conduite, quand j'étais dans la voiture et que je me suis senti libre, puis j'avais la voiture à mon contrôle, j'avais quasiment... j'ai eu une érection, une petite érection, mais une érection dans mon auto avec le gars qui était à côté. Puis j'étais en école de conduite, mais là, je venais de conduire mon auto. J'étais
il a eu peur,
en extase. J'étais heureux de prendre le contrôle d'une voiture puis d'être libre. Puis je savais que devant moi, je pouvais aller où ce que je voulais avec mon auto. J'avais l'ouverture, je pouvais aller à Québec, qui était à ma disponibilité. L'Ontario était à ma disponibilité, le Sud, le Nord, les États-Unis. Il y avait comme une sensation de surplus de liberté. Et cette liberté et l'extase, c'est interrelié. C'est pour ça qu'on fait le lien avec la liberté. C'est quand tu deviens libre et tu assumes les conséquences d'une liberté ouverte, tu deviens extatique parce que tu peux réaliser tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux vivre la joie de vivre. Et je pense que c'est ça, l'extase, c'est pas nécessairement un objet, c'est l'état que tu crées alentour de toi pour avoir cette sensation d'extase. Ça peut se représenter n'importe comment, là.
Moi, ça m'est arrivé une fois, c'est-à-dire l'année passée, on a fait la fête du mouvement jovialiste. J'avais des gens chez moi, j'avais des saints, j'avais des sages chez moi, des gens incroyables. Et quand tout le monde est parti, j'étais vraiment heureux. Oui. J'étais allé me coucher avec ma compagne, on s'est couché dans le lit. Et puis là, tout d'un coup, j'ai commencé à voir des lumières bleues. Puis elle les voyait pas. Puis là, tout d'un coup, j'ai levé, là, j'ai un orgasme. Puis là, ça a duré là, peut-être 30 secondes. Je suis mis à pleurer tellement que oui. C'était beau.
C'est un fait. Effectivement, quand on touche ce côté qui est le nirvana, en fait, un état de bien-être, là, effectivement, souvent, même dans un orgasme qui peut être d'origine sexuelle ou il y a un orgasme qui est profond, tant pour l'homme que la femme, ça peut arriver justement qu'il y ait un espace d'explosion, oui, intérieure, mais aussi qu'on on éclate en sanglots parce que c'est comme tellement beau, c'est tellement fort, mais en même temps, le but, c'est de se rappeler que c'est pas juste certains individus qui ont accès à ça, qui ont droit, en quelque sorte, entre guillemets, c'est à la portée de tous. Mais pour juste rajouter un peu ce que Gilles disait tantôt, quand toi, tu étais à ta voiture, puis que tu avais cette liberté-là, puis cette jouissance-là d'être libre et d'aller partout où tu voulais, si je me mets à la place de quelqu'un qui, au contraire, est dans la peur pour dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma voiture, puis qu'est-ce qui va arriver, puis combien ça va coûter? Donc, au fond, si on regarde ça, l'antonyme de l'extase, c'est la peur. Mmh. Et les peurs, il y en a partout. Alors, je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'à un moment donné, qu'on s'arrête dans la vie pour se poser les vraies questions, mais surtout, de quoi j'ai peur? Mmh. Et on pourrait finir aussi pour se rappeler que beaucoup de personnes, malheureusement, ont peur d'être heureux.
Ouais. Puis c'est ça, ça vient au corollaire direct de la liberté. La peur, c'est ça t'empêche d'être libre. C'est exactement ça. C'est vraiment le thème. Au début, je le trouvais difficile à trouver quelque chose à dire, mais la liberté et l'extase est directement liée. Dès qu'on en parle, dès qu'on discute entre nous autres en ce moment, on voit bien que la peur, c'est une perte de liberté. Ça nous restreint dans tous nos mouvements, dans tous nos pensées, dans tout notre agir. Et quand on veut aller à l'extase, on agit sur le champ. C'est le « do it », comme tu disais tantôt, nous.
C'est ça. Il faut arrêter d'attendre. Ouais. C'est sûr que pour certains, ça va prendre des techniques. Moi, ça m'a pris des drogues, par exemple. J'ai fait beaucoup de LSD parce que moi, j'étais un hyper intellectuel, donc c'était bloqué.
Il fallait un bon truc pour débloquer ça.
Ça me prenait une technique violente parce que je suis extrêmement violent dans le sens de le créateur, donc la violence créatrice en moi. Et c'est extrêmement puissant et ça me prenait quelque chose de si puissant. Ça me prenait pas un petit professeur de yoga qui allait me dire « fais ci, fais ça ». J'aurais pas trouvé ça approprié à moi parce que j'étais un intellectuel. J'avais besoin de quelque chose qui allait me faire passer par-dessus ça. Et les drogues psychédéliques ont été utilisées dès les débuts de l'humanité pour ça. Mm-hmm. Malheureusement, aujourd'hui, les gens l'utilisent mal. Donc oui, ça peut être dangereux pour la majorité des gens, mais pour certains, et même Gurdjieff en a parlé, que c'était pour certains, c'était une manière de valider l'état. Moi, j'ai eu mes extases grâce à ces substances-là qui m'ont comme permis de l'avoir. C'est comme ça m'a fait débloquer. Mais une fois que je l'ai eu, là, je savais c'était quoi. Donc, l'année passée, quand j'en ai eu, et puis quelques mois avant, j'ai eu ça aussi en faisant l'amour avec une femme. Et là, j'étais très surpris parce que là, j'avais rien pris. J'étais totalement à jeun, mais je savais c'était quoi. Ouais. Et là, je l'ai accueilli en sachant très bien que c'est un état, c'est un cadeau, c'est une grâce quand on atteint cet état.
Qu'on se fait. C'est un cadeau qu'on se fait, en réalité.
C'est le plus beau cadeau.
J'ai à penser, moi j'étais un peu le contraire de Nicolas. Moi, j'étais plus dans les sports, dans la compétition. Et moi, je me retrouvais, c'était pas une certaine extase, mais c'était un accomplissement, ou c'était une extase beaucoup matérialiste, où la compétition, la guerre, puis l'affrontement, puis même l'alcool, surtout j'étais au cégep, donc l'alcool, j'ai connu ça assez fort, parce que c'était maintenant c'est un style de vie, prendre de l'alcool, la star c'est l'ecstasy, mais dans mon temps, c'était l'alcool, l'ecstasy, on connaissait pas ça, mais je veux dire, j'ai été vraiment dans les formes d'extase ou de style de vie qui est beaucoup plus proche du matérialiste et non intellectuel, comme tu parlais. Donc, j'ai une formation de ma pensée assez rigide, mais à mesure que je me perçois comment je me suis formaté, j'essaie de me déformater pour devenir un petit peu plus souple dans les propos, dans les façons de faire, des façons de penser. Et la philosophie, les discussions comme on a aujourd'hui, ça assouplit tout ce qui était rough un peu au niveau de la pensée, au niveau du mental. Là.
Bien, c'est sur ça qu'on va terminer la première partie de l'émission. Si vous voulez continuer d'écouter l'émission, venez sur notre site internet, propossurlebonheur.com, ou pour les auditeurs de Radio H2O, on revient après la pause avec cette chanson du parc qui s'appelle Extase. Et on revient avec ce thème qui s'appelle Libéré. L'homme libéré est capable de connaître l'extase partout où il se trouve. Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « L'homme libéré est capable de connaître l'extase partout où il se trouve ». Alors, l'homme libéré, ou la femme, on peut dire l'être libéré, à mon avis, n'est pas contraint par la loi générale. Il est sous la loi d'exception. Il est libre, il peut choisir ses influences, il peut choisir... mais surtout, il a compris que il n'y a que le ici et le maintenant, donc pourquoi attendre? Pourquoi attendre pour être heureux? Pourquoi attendre d'avoir une femme dans sa vie, d'avoir un homme, d'avoir une maison, d'avoir de l'argent? On peut être heureux à chaque instant. Et moi, j'ai été longtemps sur l'aide sociale pendant 10 ans. J'avais pas d'argent et j'étais heureux. J'avais tout. Si j'avais besoin de quelque chose, j'allais dans la rue chercher. J'avais besoin d'un lit. Quand je travaillais à Montréal, j'avais rien. J'étais allé chercher mon lit dans la rue. J'allais tout chercher dans la rue. Et j'avais compris déjà l'abondance de l'infini. Je ne l'avais pas nommé ici à ce moment-là, mais je savais que tout allait m'être donné si j'en avais besoin. Puis j'avais pas besoin de grand-chose. Moi, j'étais heureux chez moi à faire de la bande dessinée, à faire de la peinture. J'allais chercher ma peinture dans les écoquartiers, des choses comme ça. Je trouvais tout gratuitement. Et pour moi, c'était la fête, alors que je regardais tout le monde autour de moi qui ne se permettait pas ça. je passais mes journées dans les parcs à jouer de la musique, à croiser les femmes. C'était la joie totale. Et je comprenais pas les gens qui ne se permettaient pas ça. Ben, je peux comprendre, en fait, c'est de la pression extérieure, souvent. La semaine passée, on a parlé de la moralité. Mm-hmm. Ce que les autres pensent est souvent très, très fort. Dans mon cas, c'était pas si important parce que je me voulais libre. Et je savais que c'était à ce moment-là que je devais l'être.
Mais c'est beaucoup associé aussi à l'artiste, en quelque sorte, ou à un état d'âme d'un artiste. Oui. Et heureusement, il y en a plusieurs qui, de plus en plus, découvrent cet artiste-là en eux. Donc, artiste ne veut pas dire un talent de peintre ou de musicien, mais d'être en mesure de créer sa vie, en quelque sorte. Mais comme plusieurs d'entre nous, on a été longtemps dans le mental, dans l'intellect, dans la façon de le faire, en fait. Tout le monde veut être libre, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut vivre cette liberté-là, mais on ne se donne pas nécessairement les moyens. Pourquoi? Parce qu'à la base, souvent, on est dans les « comment je vais faire ça? » Et quand on accueille l'idée qu'on est à la base un artiste et que tout est permis, quand tu disais l'abondance matérielle qui est aussi l'abondance dans la matière, on trouve tout ce dont on a besoin, mais en fait, on est prêt à recevoir. Et ça aussi, cette extase-là vient du fait qu'on se donne la permission, pas juste un droit, mais la permission d'être heureux. Donc, on se reçoit là-dedans aussi. Mais on a tous passé des périodes difficiles dans notre vie où on n'a pas passer à l'extérieur, je trouve, essayant de trouver ce qui est à l'extérieur, mais en réalité, et c'est souvent quand la vie nous enlève beaucoup de choses auxquelles on tenait beaucoup, puis que finalement on se ramasse avec soi-même, qu'on découvre qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de choses pour vraiment être heureux.
Oui, effectivement, là, c'est ça, je pense aussi la même chose que toi, là, par rapport à justement quand tu... D'un seul coup, tu n'as plus rien. Donc, c'est sûr qu'il y a comme un abandon qui se fait, un lâcher-prise. Puis là, tu te rends compte qu'effectivement, bah, finalement, tu es quand même en vie, tu es là. Et puis, c'est une libération parce qu'en fait, tu t'aperçois, bah non, finalement, j'avais pas besoin de ça. Et puis, c'est sûr que là, tu peux trouver vraiment le réel bonheur et non pas quelque chose, je suis heureux parce que j'ai un nouveau chum, un nouveau job, une promotion, etc., tout le temps à l'extérieur. Là, c'est sûr que le bonheur, c'est tout le temps un état d'être, ça n'a rien à voir avec le côté extérieur. Et puis, comme tu disais, par rapport à tout ce qui est passion et puis la liberté, la créativité, tu étais là dans les parcs et tout ça. Mais c'est sûr que là, les gens, la plupart du temps, les gens, ils ont cette peur continuelle de justement, bon, si je le fais ça, il va se passer ci. Ou, il y a tellement de questionnements et puis les structures mentales que toute la société engendre continuellement pour vraiment, justement, nous garder dans cet état de structure et de matérialité, etc., et de peur continuelle pour avoir continuellement des besoins, acheter des besoins. C'est tout un processus dans le monde matériel qui est comme ça. Donc, c'est sûr que les gens ne vont pas oser le faire. Ils vont pas, ils peuvent pas être libres.
Ils n'ont pas les moyens, en fait.
C'est ça. Ils ne donnent pas les moyens, ils ont trop peur. T'sais. Et là, ils vont se limiter. Et eux, ils croient que c'est le contraire. Ils ne vont pas se limiter parce qu'ils achètent ci, ils achètent ça. Ouais. Mais c'est tout à fait le contraire. Ouais, ouais. En fait, ils sont en train de se limiter.
Ouais, c'est intéressant. Ouais.
Voilà.
Et souvent, on voit les petites expressions qui montrent comment les gens pensent. Souvent, les gens vont dire « personne n'est parfait ». Moi, je vais toujours répondre, parle pour toi, parce que moi, je le suis.
Oui, on en avait parlé l'autre fois.
Je l'ai trouvé en moi, la perfection. Je l'exprime à chaque jour. La perfection, pour moi, c'est l'acte juste.
Ouais, c'est vrai.
C'est de poser le bon acte au bon moment, puis après, de passer à d'autres choses. Je ne suis pas un procrastinateur ou le genre de personne qui refait toujours les mêmes choses. Quelqu'un qui réécrit le même livre pendant des années. Non, moi, j'écris mon livre. OK, il est fini. Je fais la correction de base. Ouais. Puis OK, on passe au prochain. Ouais. Je sais qu'il est correct, qu'il est parfait pour moi. J'ai pas besoin d'enculer les mouches. Si on pourrait
l'important, c'est la création au moment où tu le fais. Et puis, tu vas pas t'attacher au but vraiment de qu'est-ce que tu pourrais en faire avec, etc. Parce que là, tu projettes encore dans le futur. Et là, ça crée également des peurs et ça recommence. Le cercle vicieux recommence. Alors que si tu crées ta peinture ou ton livre là, maintenant, puis après, t'en es libéré, en fait. Tu te libères et tu vas pas engendrer encore des multiples questions et donc des limitations. Obligatoirement, ça va être limité avec le mental de toute manière.
C'est ça. Puis, si on peut-être. À mesure que je lis, je vous écoute, je pense que l'homme libéré veut plus dire l'homme éveillé. Parce que, puis il prend connaissance de ce qui se passe alentour de lui.
Oui, exact.
C'est pas une question juste de liberté, parce qu'il y a des gens, si on regarde quand on était jeune, on n'était pas libéré, si on peut dire. On n'avait pas une liberté à toute épreuve. On avait toujours nos contraintes d'école, on avait toujours nos contraintes de parents et tout. Donc, quand on parle de l'homme libéré dans cette affirmation, c'est plus l'homme éveillé.
Oui, c'est ça dont on parle, effectivement.
Puis vous parliez tantôt, Mme Lazure, de la musique. Ben, moi, je ne suis pas un musicien. Là. Je suis peut-être un artiste, mais je ne suis pas un musicien. Mais je me rappelle, j'étais à l'université, puis on écoutait de la musique. Puis à un moment donné, tu fais une symbiose avec la musique qu'appelle la groove. Et moi, je l'ai senti. Je sais que les gens l'ont senti parce que je commençais à bénir dans ce temps-là, dans les années 80. Et je suis sûr que tout le monde, en tout cas les gens que j'étais avec, parce qu'on on a comme sorti, même si il y avait une
crowd,
puis on sentait de la musique, puis c'était c'était tellement drôle parce que c'était une toune de Céline Dion, imagine-toi. Nous autres, on était des sportifs, on avait pogné la groove de Céline Dion, ça faisait pas trop macho.
je m'en vanterais pas.
Non, mais on est juste une centaine de milliers ici à écouter. Non, mais je veux dire, c'est juste que l'extase, la musique crée des extases. Le groove, moi, je trouve que le groove de la musique, c'est une extase que les musiciens pourraient plus définir comme moi. On rentre en symbiose avec la musique, avec le son. On est comme le son. Et puis,
on ne fait qu'un, en fait.
Ouais, hein? C'est ça.
Oui, c'est
ça.
C'est une manifestation physique dans le monde ici. Oui. Moi, il m'est arrivé il y a une dizaine d'années, quand je faisais encore des expériences psychédéliques, j'ai fait des grandes expériences de champignons. Puis là, j'ai entré en extase. Et puis, j'étais tellement libre, j'avais pas de travail. J'allais jouer tous les jours au Parc La Fontaine, puis je continuais à fumer du pot. Puis, je jouais beaucoup de musique. Et puis là, moi, c'était toutes des chansons heureuses. Puis, je continuais. J'ai été dans le même état que quand j'étais sur les champignons pendant 2 mois. Et je comprenais, je ne savais pas pourquoi c'était comme ça. Puis là, ma compagne à cette époque-là, elle m'a invité à aller dans un cours de yoga. Bien, j'ai dit OK, elle m'a payé le cours de yoga. Donc, rendu là, le professeur avait une vieille guitare sec comme la mienne, puis il commence à chanter des mantras. Là, j'ai compris. J'ai dit, c'est ça que je fais. Ouais. À tous les jours, je fais l'équivalent des mantras.
Oui.
Donc, je me ramène dans cet état. Et même aujourd'hui, quand je rejoue ces chansons, je me rappelle de l'époque et ça me ramène dans cet état-là. Donc, moi, mon art est un outil sacré, comme les maîtres du Tibet, par exemple, qui vont faire des mandalas.
Oui. Ben, en fait, oui, parce que justement, les mantras, les mandalas, comme tu dis, et aussi toutes les techniques de visualisation, méditation, etc., au fond, le but, c'est peut-être de pouvoir déconnecter pour être en contact avec l'esprit et d'être dans un état de bien-être. Mais en réalité, pour avoir été souvent et régulièrement en Inde et être en contact avec les lamas tibétains, leur mantra leur permet justement, avec des sonorités plutôt basses, d'embarquer dans leur corps, de ne faire qu'un avec leur corps et de laisser la vie en eux monter sans sortir de leur corps. Alors, ce qui fait que oui, ils ont un état d'extase, un état de bien-être et justement, par ces techniques-là, ils finissent par réveiller les facultés extrasensorielles, spirituelles également et ça, avec aucune substance extérieure, mais c'est vrai que dans certaines personnes, certains domaines, certaines cultures, on peut en avoir besoin. Et moi, je ne touche pas à ça ou j'ai jamais touché à ça, mais j'ai déjà vécu cette extase-là rapidement. J'étais au collège, je courais, j'avais 20 minutes de course à faire, puis moi qui n'étais tellement pas bonne, j'ai pas de cardio. Et à un moment donné, je forçais mon corps parce que je voulais avoir mon certificat de secondaire 5 et je me suis vue sortir de mon corps, au-dessus de moi, ce qu'on appelle souvent en sport le second souffle. Je courais au-dessus de mon corps était d'une légèreté, j'ai clenché toutes les filles, je suis arrivée la première plutôt que de la dernière, moi-même j'en revenais pas vraiment. Quand j'ai arrêté de courir, parce qu'il a fallu que je reprenne mon souffle, il y avait une espèce de joie, ça fait peut-être plus de 40 ans que j'ai vécu ça, bon, pas tout à fait, là, disons 30 quelques, et je m'en rappelle encore.
Ouais.
Et
ah ouais,
c'est pas quelque chose que j'ai pu revivre, mais je suis sûre que justement le second souffle en sport nous amène dans cet état-là ou toute autre technique, bien entendu. Ouais.
Une autre anecdote, j'ai eu des groupes de discussion aussi sur les drogues psychédéliques encore là à l'époque où moi j'en ai fait une dizaine d'années. Puis il y a un homme qui vient, là, puis j'ai rencontré tous les styles. Et puis le gars, il était obsédé par atteindre l'illumination. Puis il me dit, je vais atteindre l'illumination en 2 ans.
Tu sais, déjà, mettons une.
J'ai pensé lui dire, mais pourquoi pas ici et maintenant? Je disais, pourquoi attendre 2 ans?
C'est maintenant que ça se passe, c'est pas dans 2 ans, même pas dans 1 heure.
Mais tu vois, ça, c'était la symptôme de notre société, c'est-à-dire, je le mérite pas. Ouais. Je suis pas assez pur.
Il faut du temps. La
pureté, elle est là, en nous. Il s'agit de la voir. Puis nos défauts, ils sont beaux. Les défauts nous empêchent parfois de faire certaines choses, mais ils nous ramènent aussi parfois dans notre propre voie. Mm-hmm. Je veux dire, quand il faut, par exemple, j'ai un ami qui est diabétique, la majorité des diabétiques vont chialer tout le temps, ils vont c'est la fin du monde. Privés, et lui, ouais. Il a compris qu'il faut se servir de ces maladies, et lui, il a compris que ça l'aide à porter attention à tout ce qu'il mange, à tout ce qui est.
Exact.
Et ça, moi, je trouve ça intelligent.
Ben ça, il faut utiliser tout ce qui nous arrive de mal dans la vie pour atteindre l'éveil.
Mais c'est surtout pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps.
Donc... Pour ne pas atteindre, attention, là, tu viens de dire, pour être en état d'éveil.
T'atteins dans l'être.
Atteindre,
t'atteins l'éveil dans l'être.
Non, pour être
non, tu peux l'atteindre à l'instant même. Attention, Nicolas.
Il faut faire attention aux mots. Moi, j'adore la philosophie pour ça, parce que justement, tu reconnais des détails comme ça. Comme
je j'ai, dire, pas dit atteindre. J'ai pas dit atteindra, j'ai dit atteindre. C'est présent, ça. C'est le présent.
Bon, on se laisse... Pour quelques minutes avec la chanson de Alex Nevsky. Bon, j'ai oublié de mettre le titre, mais bon, ça doit être une chanson sur l'extase. on revient après la pause avec ce thème. L'homme libéré est capable de connaître l'extase partout où il se trouve. Papa, on s'est démaquillé, on a mis du fort. Sous nos joues, on s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et baïonné. On a mis la mort à nos bouches. On s'est fait sacré sans mettre nos corps sous les clous. On s'est fait pute et pour briller, on a mis de l'or à nos coups. On s'est repeint, remaquillé, on a mis du phare sur nos retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « L'homme libéré est capable de connaître l'extase partout où il se trouve ». J'avoue, moi-même, je suis tombé dans le panneau quand j'avais dans la vingtaine. J'ai cherché, j'étais obsédé par l'éveil, par l'illumination, et j'ai cherché. Tout ce que j'ai trouvé, ce sont les techniques du yoga, des techniques orientales qui m'amenaient à me purifier, à délaisser la sexualité. Mais je me disais, ça n'a pas de sens. J'ai une femme dans ma vie, je dois honorer ça. Je peux pas... devenir un ascèse qui fait plus l'amour avec sa compagne, je vais tout perdre. Et ça ne faisait pas de sens. Oui. Et là, je suis entré dans une phase d'étude avec les drogues psychédéliques qui m'ont permis de passer à l'action. Tout ce que j'avais appris, moi, mon mental me bloquait. Toi, des gens comme toi, Joanne ou Marie, vous aviez déjà une ouverture.
Oui.
Et je trouve que les femmes, en général,
c'est un fait.
Elles sont déjà ouvertes.
Oui.
C'est, ça fait partie de la beauté de la femme, c'est l'ouverture. Mais souvent, les hommes, on est castrés au niveau spirituel. Parce que dès qu'on est jeune, on nous dit ben, faut pas que tu pleures, faut pas que tu aies d'émotions.
C'est ça,
Il sait beaucoup. C'est
la sensibilité qui part à cause de ça. Ouais.
J'ai toujours été sensible, mais veux pas, la société a fini par me programmer d'une certaine manière. Mais j'ai été chanceux parce que j'étais un artiste, donc j'avais toujours cette voix qui revenait. Et puis là, ça c'est devenu quelque chose de sacré pour moi. Alors. Et puis finalement, j'en suis venu à comprendre que j'avais pas besoin de technique. Que si je veux faire de la méditation, c'est pas pour m'éveiller, c'est pas pour atteindre l'illumination, c'est juste pour me recentrer, pour me sentir bien, mais pas pour atteindre quelque chose. Et c'est ça le danger, à mon avis, des techniques, c'est que ça devient des béquilles. Et les béquilles font de nous des handicapés. Est-ce que tous ces gens qui font des cours de yoga, tu les enlèves leurs cours de yoga, est-ce qu'ils sont encore spirituels? Ils vont en douter, alors que pas moi. Moi, je n'ai pas besoin d'un cours.
Ben moi, en fin de compte, on parle un peu de l'essence mystique, si on peut parler ainsi. Moi, je disais, la dernière fois, j'ai fait les émissions avec les deux dernières émissions qu'on a faites. Je me posais la question, j'ai-tu été bon? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai bien fait? Et là, j'ai lu un passage d'un traité sur l'être. Et là, je parlais toujours en fonction de la personne. J'ai parlé au début de l'émission de la personne, mais c'est toujours la personne qui est devant dans la vie. Moi, il faut que mon extase, c'est l'être. L'être est parfait. Donc, il faut s'habituer à la grandeur de l'être. L'être n'a pas de défaut. On est parfait, même si des fois, je m'exprime croche, je rature une syllabe, je fais un mauvais geste, j'agis de façon un peu pas trop orthodoxe. C'est la personne qui agit dans la vie, dans le rôle de la société. Mon être est parfait. Mon être se trompe pas. Et du moment que tu comprends ça, t'es dans une extase permanente. Je peux pas me tromper. J'ai fini. Il faut que j'arrête de penser que je me trompe à tous les jours. Mon être, c'est ma vie. Je suis moi-même quand je parle de mon être. Quand je parle de la personne, quand je mentalise mes actions, quand je dis des choses, je ne peux pas me tromper parce que ça vient de mon être. Je peux, la forme peut être différente, la forme peut être un peu croche, mais mon être, c'est la base de toute ma vie, c'est pas la personne, c'est mon être. Donc, tout ce qui est représentatif de ma vie à l'extérieur, c'est moi qui le projette. Donc, il faut juste que je m'ajuste à mon être. Et si je veux que moi, en tant que moi-même, mon être performe bien en tant que personne, bien, je m'ajusterai. Mon être ajustera la réalité dans laquelle je vis. Et s'il y a une dichotomie ou s'il y a une variation dans l'intensité de la personne et non de l'être, parce que l'être est parfait, bien, la personne s'ajustera à l'être que je suis et non mon être à la réalité qui est illusoire.
Là. C'est la personnalité, au fond, ou la persona. Donc, on parle souvent de psychologie, persona, justement, au fond, où on joue des rôles autant pour l'un pour l'autre. Au fond, quand on contacte cet être-là, cette divinité-là, que normalement, certaines religions auraient pu transmettre par certains enseignements, en fait, par certaines façons, lectures ou peu importe, mais en réalité, on croit à tort que les autres ont raison ou qu'est-ce que les gens vont dire. Mais quand on reste branché à soi, ce qui est se relier à soi, qui est normalement la vraie définition de la religion, et quelle qu'elle soit, c'est de pouvoir justement, comme tu dis, se relier à son être divin, cette divinité-là, mais en contact avec son âme. Donc, souvent, ce que je dis aux gens, mais comment on peut faire pour être heureux puis être dans cette extase-là? Bien, il y a deux mots, à mon avis, qui arrivent à le définir dans l'instant présent. Ça fait « wow ». Ou ça fait « wow ». Ce sont les mêmes lettres, mais quand ça fait « wow », déjà, on a les épaules qui sont dans les airs, mais en même temps, il y a une ouverture au niveau du cœur. Quand ça fait « wow », on a les épaules qui baissent d'un coup, mais pas nécessairement parce qu'on est libre, parce qu'en fait, on est déprimé.
Oui, mais encore là, même dans le chaos, l'être est toujours parfait. Donc, si ton être t'a créé un chaos, il faut que tu apprennes de ton chaos parce que le chaos n'est qu'une illusion encore. Donc, le chaos, c'est comme on disait tantôt, au niveau de la personne, qui a des problèmes au niveau des financiers, qui a un problème avec un créancier. Mais l'autre, ou non, je ne sais pas ça qu'on parlait. On parlait avec la voiture. La personne qui conduit sa voiture, que moi j'ai une extase, et l'autre personne qui conduit sa voiture qui a peur. Oui. C'est pas la situation qui est comme ça. Oui. C'est la pensée que tu fais dans la situation dans laquelle tu te mets Donc, si toi, quand t'es dans une voiture, t'as une érection, puis l'autre personne dans la voiture a peur comme à rentrer dans les murs, ben c'est qui crée cette situation-là? C'est pas la situation. La situation ne réagit qu'à la formation de cette
personnalité-là. Justement,
oui, et généralement, la peur est une anticipation du futur. Oui. Il y a des peurs saines, par exemple. Le feu prend dans ta maison, mais c'est normal d'avoir peur. C'est ton corps qui va réagir. Mais la majorité de nos peurs sont des peurs imaginaires. La peur de manquer d'argent, peur d'être seul, peur d'être ici. L'homme libéré, l'homme éveillé n'a peur de rien. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de rien. Je n'ai rien à perdre présentement. Je ne possède rien. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'auto, j'ai mon œuvre, et même si on me volait mon œuvre, je pourrais la réécrire parce qu'elle est dans ma tête. Tous mes idées sont à l'intérieur. Et donc, moi, je n'ai pas fondé mon bonheur sur le monde physique, sur les objets physiques autour de moi. Et c'est souvent ce que je dis aux gens. Et même si tu fais de l'argent, tu ne pourras pas l'amener avec toi quand tu vas mourir. Essaye de t'accrocher après ton argent. Il va rester là.
Mais l'extase pourrait passer éventuellement par aussi avoir une maison, avoir un travail, avoir des choses matérielles, mais ça revient toujours à de toute façon, rien ne nous est donné. On n'emmène rien avec nous. Mais on peut aussi arriver à une forme de détachement parce qu'on ne peut pas vivre vraiment, à mon avis, l'extase et un état de bien-être et de liberté si justement on se sent attaché. Donc, on a quelque chose qui nous sert, une maison, un lieu de travail, une voiture, peu importe, parce que, bon, on est quand même dans une société, dans la vie, mais notre rapport à ce bien-là, c'est là que ça vient peut-être à l'encontre de notre propre bonheur.
Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que cette extase-là qu'on reconnaît dans la matérialité ou dans le relatif, bien, il faut le mettre, il faut le comprendre que c'est notre aide qui le crée pour nous faire comprendre c'est quoi l'extase.
Exact.
Parce que l'extase permanente, c'est l'être, la vie. Tandis que la personne le vit dans un temps précis, dans un cycle précis de la vie. Et si on est capable de reproduire ça et de comprendre que cette extase-là est en fonction de l'être et qu'on met une extase permanente, ben à ce moment-là, les petites extases qu'on a avec l'argent, avec le sexe, avec les avoirs, ben ça s'élimine automatiquement. Donc, on ne vit que par l'être. Et à ce moment-là, on établit le paradis sur Terre.
Oui,
on n'a pas besoin d'attendre, on agit sur le champ. Il n'y a plus d'échéance, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus de... On le fait en ce moment, c'est un état d'être. Donc, tu ne peux pas être parfait dans 2 ans. Si tu es parfait dans 2 ans, puis tu ne peux pas travailler sur la perfection. C'est comme le gars qui est un orfèvre qui met de l'or sur son or pour qu'elle soit meilleure. C'est de l'or. Donc, tu ne peux pas être plus que parfait que de l'or.
En fait, le mot d'ordre, c'est ça. Arrêtez de vous préparer, mes amis. Soyez prêts. Oui. Moi, je suis prêt. J'ai compris que je suis toujours prêt à l'extase quand je sors de chez moi. Pour moi, tout ce que je fais dans ma vie, ça me ramène toujours au bonheur. Et j'ai une émission de radio sur le bonheur. Je prépare une émission de télé. J'écris des livres sur le sujet. Je suis président d'un organisme sans but lucratif à propos de ça. Bon, tout dans ma vie me ramène à ça parce que pour moi, c'est ce qui est fondamental. Rien d'autre a plus d'importance à part mon œuvre personnelle. Mais pour moi, c'est ma raison d'être sur la Terre. Je ne dis pas qu'on a une raison. Moi, je crois qu'il n'y a aucune raison d'être vivant. Mais si on s'en donne une...
Oui, une mission, en fait.
Donnons-nous une mission qui va avec ce qu'on s'est donné à être et non ce que les autres veulent.
C'est un fait.
Et puis, on nous amène trop à penser au futur ou au passé. Moi, je n'évolue pas. Je suis évolué. Je ne viens pas du singe. Si je viens de quelque chose, c'est plutôt d'un ange. Je descends de l'ange et j'y remonte. Je veux dire, si tu penses que tu viens du singe, je veux dire, les arguments qu'on va nous dire, c'est que les gènes sont proches. Mais j'ai autant. Les gènes sont aussi proches que d'un arbre que d'un singe, en réalité. En fond, tout ce qui est sur la Terre est ma substance à moi.
Cette énergie.
Tu voulais parler?
Non, je disais que tout était énergie.
C'est une question aussi. Là, on va bifurquer au niveau de l'immatérialité. Donc, si on a une conception matérielle que tout ce qu'on voit devant nous, c'est une réalité, je ne veux pas dire que ce n'est pas une réalité. Je m'exprime comme il faut. C'est une réalité, mais c'est un construit encore de nous-mêmes. Donc, on a décidé de venir dans ce monde parce que cette réalité-là qui était construite, qui a été construite par un amalgame de pensées de tous les êtres humains, bon, on a dit on va s'en servir pour nous éveiller encore plus que nous-mêmes, devenir plus nous-mêmes plus que nous-mêmes, donc être.
Moi, il me vient une image à propos de l'extase, justement, qui me fait penser un peu à un ébouli dans une montagne. Tu sais. Il y a des petits morceaux qui vont tomber. C'est comme nos petits bonheurs de tous les jours. Puis tout d'un coup, là, ça lâche. Puis là, c'est l'avalanche. Et les moments que ça m'est arrivé, moi, c'est ça. J'étais déjà heureux. J'étais très, très, très heureux. Mais il y a eu comme la goutte. Là, cette journée-là, il s'est passé quelque chose. Puis bang!
Et qu'on ne contrôle pas aussi. Hein?
Exact.
C'est... En quelque sorte.
Non, il faut tuer l'éveil. Moi, je veux juste une tête...
On a encore 30 secondes.
Mais le, moi, je regarde juste les extases du matin. Combien de gens, quand on se lève le matin, commence à faire chaud, c'est l'automne ou le printemps, on se lève le matin, tout est calme, tout est doux, rien ne bouge. On est dans l'extase du matin. C'est parfait, ça commence ta journée. Mais si tu te réveilles, puis tu as mal dormi, puis tu as fait des cauchemars, puis tu es encore tes mêmes problèmes, tes mêmes pensées que la veille, que tu remontes dans ta journée présente ton passé, ton passé était malheureux, mais quand tu te lèves le matin, tu ne peux pas connaître l'extase. Donc, il faut que tu vives le moment présent. Tu écoutes les chants des oiseaux, les chants, la vie qui se réveille, et tu te réveilles avec. Puis
eh bien, on vous le souhaite cette semaine de vous réveiller en extase.
et on vous dit merci.
Bonne
merci
semaine à tous. On vous laisse avec la chanson de Daniel Vidal qui s'appelle La chanson de mon bonheur. Et puis, on vous invite à écouter l'émission ou la réécouter sur notre site internet propossurlebonheur.com ou sur Radio H2O en podcast.
Murmurant des mots sur l'eau des ruisseaux, et je veux chanter aussi pour toi. Écoute-moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ma chanson est toujours la même, elle vient tout droit de mon cœur. Je t'aime. La même, c'est la chanson de mon bonheur. La maman qui veille chante doucement pour bercer l'enfant. La voix d'une vieille qui cherche en souriant l'air de ses 20 ans. Et je veux chanter aussi pour la même, elle vient tout droit de mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ma chanson est toujours la même, c'est la chanson de mon bonheur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.